au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers auditeurs de Canal Académie, bonjour et bienvenue dans l'émission Au fil des pages, consacrée aujourd'hui au magazine des livres. Un périodique bimestriel, encore jeune, puisqu'il est né en 2006, et dont l'originalité tient, du moins de mon point de vue, n'est que mon point de vue, dans le fait qu'il n'est pas à proprement parler un magazine, d'abord un magazine de critique littéraire, même s'il en contient un peu, ni une revue littéraire qui simplement collectionnerait des textes d'écrivains. Et je suis très tenté de définir le magazine des livres comme une sorte de maison d'accueil de la littérature. Non pas à travers des morceaux d'œuvres littéraires, mais plutôt ce que veulent en dire des écrivains et des lecteurs compulsifs même. Moins pour porter un jugement que pour en tracer les contours et pénétrer ainsi dans cet atelier virtuel de fabrication des livres où les écrivains et les lecteurs peuvent cheminer. D'ailleurs, l'une des rubriques est intitulée fort à propos « La fabrique ». Une fabrique où l'on peut parfois humer des parfums un peu troublants. Si j'en juge par les pages de cette rubrique que vous avez consacrée dans le dernier numéro du magazine, numéro 8, sorti en janvier dernier, à la littérature érotique. Des pages sur lesquelles je ne m'étendrai pas trop si vous me passez l'expression. Il y a tant de choses dont on peut parler à propos d'un magazine aussi riche et diversifié. Et pour nous présenter donc aujourd'hui cette richesse, cette diversité, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios son directeur éditorial, Joseph Vébray. Joseph Vébray, bonjour.
Bonjour.
Joseph Vébray, je vais commencer par une chose qui va peut-être vous surprendre. Je vais dire que vous avez 50 ans. Et si je dis ça, c'est qu'apparemment, c'est quelque chose qui non seulement ne vous gêne pas, mais qui produit même chez vous, vous me direz si je me trompe, hein, une sorte de jubilation. C'est normal pour un jubilé, d'ailleurs. Et cette jubilation que j'ai cru percevoir dans votre éditorial du dernier numéro de l'autre revue que vous dirigez, puisque vous dirigez une autre revue, La Presse littéraire, je me suis demandé en lisant cet éditorial si ce regard particulier qui est le vôtre, cette jubilation, un regard à la fois sérieux, bienveillant, et teinté d'une discrète pointe d'humour, si ce regard avait quelque chose à voir avec la double culture dont vous vous réclamez. L'Auvergne d'une part, oui, l'Auvergne, par votre père enseignant, par votre naissance à Chamalières, tout un symbole, et le Moyen-Orient d'autre part, par votre mère. Et puis aussi, il faut dire, passer son enfance et une partie de son adolescence à l'étranger, à Lagos, à Téhéran, à Bizerte, ça laisse des traces. Et des traces qui se reconnaissent, j'imagine, dans votre regard sur le monde, votre regard de journaliste spécialisé dans les médias d'abord, que vous avez été longtemps, et ensuite d'écrivain. Vous avez notamment publié en 1998 un roman, Le souffre-plaisir, chez l'éditeur Jean Picolec, et qui vous a valu cette année-là d'ailleurs le prix d'automne de la Société des gens de lettres. Vous vous consacrez depuis 2002 à l'écriture, à l'édition, comme directeur de collection chez plusieurs éditeurs, et, raison de votre présence aujourd'hui parmi nous, à la direction éditoriale du magazine des livres qui fera l'essentiel de cette émission, et de la revue La Presse littéraire, lancée en 2004, tous deux sous l'égide de Lafond Presse. Alors pour ma première question, Joseph Vébray, permettez-moi de revenir sur ce qualificatif que je me suis permis d'accoler à votre magazine, la maison d'accueil. Expression à prendre en son sens le plus noble, bien entendu. Ce qui m'a surtout frappé à la lecture du magazine des livres, et ce qui m'a fait penser justement à une maison d'accueil, c'est cette propension à utiliser fréquemment dans vos colonnes la formule de l'entretien, dans lequel l'écrivain que vous voulez présenter répond à des questions, ce qui, soit dit en passant, vous rapproche de Canal Académie, Et ce faisant, vous laissez votre interlocuteur, en quelque sorte, libre de dire ce qu'il a envie de dire sur son œuvre et sur lui-même, après tout, pourquoi pas. Vous l'invitez dans votre maison, qui peut d'ailleurs être la sienne, et il se promène et réagit au décor qui l'entoure, et en l'occurrence, ce décor, eh bien, ce sont vos questions. Des questions qui lui donnent un éclairage, mais qui ne cherchent pas à influencer les réponses. Alors ce procédé, Joseph Vébray, est-ce que c'est une manière pour vous de garder une certaine distance par rapport à vos invités? Une manière pour votre magazine de rester libre? Une manière de vous protéger, de vous distinguer à la fois de la critique littéraire, dont vous évoquez les pièges dans votre numéro 7, ou de l'éloge systématique? Je vous en prie, Joseph Vébray.
La critique littéraire est à mon sens un art qui est en voie de disparition ou qui a disparu. Pour moi, la critique littéraire, c'est Thibaudet, c'est Gracq, mais ce que je lis aujourd'hui dans des quotidiens, dans des revues spécialisées, ce n'est pas de la critique littéraire, c'est du journalisme littéraire. Quelque chose de très différent. Pour moi, la critique littéraire, c'est une œuvre littéraire à partir d'une autre œuvre littéraire. C'est un art très difficile et je n'ai absolument pas la prétention ni le désir de faire œuvre de critique littéraire. Je me positionne plus en lecteur attentif, lecteur curieux ou en passeur de plats entre une cuisine, qui est la cuisine littéraire, et des convives qui soit viennent chez moi parce qu'ils ont déjà goûté certains mets, ou soit ont envie de découvrir des plats préparés par d'autres. Ça c'est le premier point par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Me protéger, non. Je me positionne en naïf.
C'est une forme de protection.
Ce qui peut être une forme de protection. Je me mets à la place d'un lecteur qui n'aurait pas toute la connaissance de l'œuvre et de l'écrivain dont on va lui parler, qui aurait envie de le découvrir. Et j'essaye d'avoir de poser des questions, je dirais, basiques, parce que 9 fois sur 10, l'intervieweur cherche à se faire mousser à travers l'interview. Alors que je pense qu'il faut se mettre en retrait par rapport à la personne que l'on veut interviewer et que le fond doit l'emporter sur la forme. Donc j'essaye de poser des questions simples, des questions basiques, mais aussi des questions qui me tiennent à cœur, à moi qui suis également écrivain ou essaye de l'être, à moi qui suis également lecteur, ou à moi qui peut être touché par un livre, ou pas touché par un livre. Je peux très bien rencontrer des auteurs dont je n'apprécie pas totalement l'œuvre, mais j'ai quand même envie de les rencontrer pour leur poser des questions. Et les questions que je leur pose sont bien souvent basiques, c'est-à-dire « Pourquoi écrivez-vous ?» Ça, c'est une question. Ça, c'est la première des questions. Que fait-il qu'à un moment un individu décide de se mettre à nu, décide de noircir du papier, de relier ses feuilles de papier entre elles et de les envoyer à un éditeur et de prendre le risque d'être accepté, d'être refusé, d'être accepté, de ne pas être lu par des lecteurs ou d'être étrillé par la critique, que ça se vende, que ça ne se vende pas. Ensuite, ce que j'aime savoir, c'est d'où vient l'inspiration des écrivains qui me touchent. Vous savez comme moi que les livres poussent sur les bibliothèques. C'est Julien Gracq qui m'a dit ça une fois, où je lui disais, mais Jean Edernalier a un petit peu piqué dans vos livres. Et il m'a répondu, ce n'est pas grave, les livres poussent sur les bibliothèques. C'est-à-dire que chaque œuvre littéraire entraîne une autre œuvre littéraire. Chaque livre, lu par un écrivain, vient contribuer à la création de l'œuvre et à l'élaboration du livre suivant de l'écrivain, sans pour autant qu'il y ait plagiat. C'est simplement une construction. Et demain, si vous enlevez Stendhal des lectures de Julien Gracq, vous n'avez plus le Julien Gracq que l'on connaît aujourd'hui. Donc, connaître les sources d'inspiration, les lectures de l'écrivain permet de mieux comprendre l'écrivain, de mieux comprendre son œuvre et de mieux comprendre ce qui nous a touchés.
Alors justement, Joseph Vébret, si vous voulez bien, venons-en un peu à vos invités, mais je pose ma question dans un sens un peu particulier, vous allez comprendre. Parce que nous avons noté avec plaisir quand même, ici à Canal Academy, que vous donniez une place importante dans votre maison d'accueil aux académiciens.
Oui.
Jean d'Ormesson était en couverture de votre numéro 7, tandis que votre numéro 8, s'il fait place en couverture au portrait tout en mystère, un peu blanchâtre, hein, d'Amélie Nothomb, il contient des entretiens avec Frédéric Vitou et avec Jean Dutour, dont nous parlerons plus en profondeur tout à l'heure. Mais ce que je voudrais d'abord évoquer, ce qui m'intrigue dans cette approche, dans votre approche, c'est que vous me semblez privilégier en même temps la littérature, une littérature en tant que mouvement collectif, ce qui est le propre de l'Académie française, le fondement même, et l'écriture solitaire qui tend au contraire à s'éloigner de ce que représente une telle institution. J'ai noté notamment dans votre éditorial du numéro 8, vous consacrez cet éditorial à Julien Gracq, et Julien Gracq est le modèle même de l'écrivain solitaire. Et puis dans votre entretien avec Frédéric Vitou, j'ai noté aussi quelque chose d'intéressant. Il évoque Patrick Modiano et la difficulté pour Patrick Modiano de se sentir à l'aise dans une institution comme l'Académie. Alors, la question simple que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous gérez cette ambiguïté naturelle de la littérature toujours partagée entre l'esprit collectif et l'individualisme qui peut parfois être extrême?
Tant que l'écrivain n'a pas remis son manuscrit à son éditeur et tant que l'éditeur n'a pas diffusé le livre en librairie, l'écriture est une aventure solitaire. Lorsque l'on est devant sa feuille de papier, on est tout seul. Lorsque l'écrivain lit un livre qui va l'inspirer, découpe un fait divers dans un journal ou rencontre des amis, tout pour un écrivain est objet dont il va s'imprégner pour son écriture. Ça, c'est le côté solitaire. Et dans ce côté solitaire, c'est ce que j'essaye de faire ressortir en partie dans les entretiens que je peux mener avec des écrivains. Ce que je vous disais tout à l'heure, le type de questions que je peux poser. Ensuite, une fois que l'ouvrage est en librairie, soit par stratégie de l'écrivain, soit par penchant naturel, cet ouvrage va s'inscrire, quoi qu'il arrive, dans une catégorie. Et Frédéric Vitou m'a dit une phrase qui m'a marqué. Nous parlions de Louis-Ferdinand Céline, auquel il a consacré deux biographies plus d'autres ouvrages. Il me disait, Céline fait partie de ces écrivains qui ferment des portes. C'est-à-dire qu'une fois que l'écrivain disparaît, son œuvre est un tout. Et on ne peut pas, on peut imiter Céline, on ne peut pas faire des Céline. Et puis il y a des écrivains qui ouvrent des portes, qui donnent des clés, qui donnent des éléments sur lesquels d'autres écrivains vont s'appuyer pour créer une œuvre. Alors maintenant, pourquoi l'Académie française? La réponse est simple. Quand on est issu d'une double culture, culture occidentale et culture orientale, ma mère est profondément francophone et francophile. Lorsqu'elle est venue au monde, elle est venue au monde dans un pays qui était sous mandat français. Lorsqu'elle était petite à l'école, elle chantait « Maréchal, nous voilà » parce que c'était l'époque où tous les enfants français, où qu'ils se trouvent dans le monde, chanter cette chanson-là.
Oui, ça, oui.
Et donc, moi, j'ai été élevé par un couple où la langue française était très importante. Mon père était enseignant, puis il a été à l'Alliance française, de l'Alliance française, qui est parti au Nigeria, à Téhéran, en Tunisie, et 6 ans en Grèce, où j'étais à l'Institut français d'Athènes. Et lorsqu'on est à l'étranger, lorsqu'on est fils unique, lorsque on ne regarde pas la télévision parce qu'elle est en langue étrangère, que fait-on ? On lit. Et quand on lit, on relit, on dévore, on prend tous les livres que l'on trouve. Il n'y a pas de librairie, on peut en acheter, donc on emprunte aux uns et aux autres. Et la langue française, qui est un véhicule, prend une importance démesurée dans ces circonstances-là. Et les institutions telles que l'Académie française, le Collège de France, etc., prennent également une importance, dans un premier temps une importance symbolique, et dans un deuxième temps, lorsqu'on y réfléchit, on se dit qu'après tout, ce sont des institutions qui défendent quelque chose que l'on aime, qui est le français, la langue française et la littérature. Alors vous me direz que tous les académiciens, qu'à l'Académie française, il n'y a pas que des écrivains. C'est représentatif d'une société. Mais je vous rappellerai à ce moment-là que si les académiciens ont une épée à leur habit, c'est pour défendre la langue française. Et il faut défendre la langue française, parce qu'il n'y a rien de pire que le langage texto, que le langage SMS, etc.
Joseph Weber, si vous le voulez bien, nous allons faire une petite pause dans cet entretien et nous reprendrons dans quelques minutes.
Ob es mir denn entgangen, dass ich geweint hab, dass ich geweint hab. Ei, Tränen, meine Tränen, und seid ihr gar so laut, dass ihr erstarrt zu Eise wie kühler Morgentag und trinkt doch aus der Quelle die Brust so glühend heiß, als wollt ihr zerschmelzen des ganzen
Bien, chers auditeurs, bonjour, nous reprenons cet entretien avec Joseph Bébret à propos du magazine des livres. Et je voudrais maintenant passer à Frédéric Vitoux, tout simplement. Votre rencontre avec Frédéric Vitoux, qui est évoquée sur 2 belles pages de votre numéro 8, et c'était une rencontre, de mon point de vue de lecteur, intéressante, car elle illustre parfaitement, de mon point de vue en tout cas, le style maison d'accueil. Outre l'Académie et Patrick Modiano, dont nous avons parlé précédemment, votre interlocuteur parle longuement dans cet entretien de son dernier livre, Clarisse. Et l'histoire d'un bien étrange personnage qui a marqué son enfance, et je dois dire que la lecture de cet entretien donne envie de lire ce livre, et de découvrir la mystérieuse ambiguïté de cette vie que Frédéric Vitoux définit comme étant successivement dissolue et sanctifiée. Vous avouez quand même que le rapprochement est difficile. Alors, ma question est simple, Joseph Vébrec. Comment est-ce que vous avez vécu cet entretien avec Frédéric Vitoux?
Les choses se sont passées très simplement. J'ai reçu en service de presse le dernier livre de Frédéric Vitoux. Je feuillette ce livre, je vois écrit Clarisse sur la couverture et je me dis, tiens, encore un écrivain qui écrit un livre sur sa mère. Parce que le thème de la mère chez l'écrivain est un thème important et récurrent. Je commence à lire ce livre et je me retrouve d'emblée dans une atmosphère très particulière avec l'évocation d'un appartement qui est d'Anjou. Et l'évocation d'une femme qui n'est pas la mère de l'auteur, qui est une amie de la famille, une amie de la grand-mère, qui insidieusement, petit à petit, s'immisce dans cet appartement, s'immisce dans les couples, s'immisce dans le foyer, jusqu'à vivre 30 ans, 40 ans avec les uns et les autres, le grand-père, le père, la mère, la grand-mère, et avec des relations et des sentiments bizarres, ambigus, parfois malsains. Mais au-delà de Clarisse, je ne sais plus quel journaliste a dit, ce livre, c'est également la biographie d'un lieu et d'un appartement. Donc, j'ai pris contact avec Frédéric Vitoux en lui disant que j'aimerais le rencontrer, j'aimerais lui poser des questions, mener un entretien. Nous avons en fait mené deux entretiens, l'un sur Clarisse et l'autre sur Louis-Ferdinand Céline dans le cadre d'un hors-série de la presse littéraire. Et lorsque je suis arrivé dans cet appartement très très bizarre, très très bizarre, chaleureux, face à cet académicien très accueillant, très simple et très accueillant, je me suis dit, j'ai envie que ce soit lui qui me dise ce qu'il a mis dans son livre. Et donc ma première question, qu'il a d'ailleurs surpris, je dis, qui est Clarisse? Donc il a dû se demander si j'avais lu le livre. Je pense qu'il n'a pas osé me demander si j'avais lu le livre. Et il répond, parce que je trouve aussi que parfois, il est intéressant de demander à l'auteur, à la première personne concernée, ce qu'elle a voulu mettre dans son livre, quelle est la part d'elle-même qu'elle a mis dans son livre. Et c'est vrai que derrière Clarisse, derrière l'histoire de cette femme assez extraordinaire, il y a une autobiographie familiale, mais qui n'apparaît qu'en toile de fond. Et Frédéric Vitoux explique qu'il a mis 25 ans à écrire ce livre. Et c'est rare, des gens qui mettent 25 ans... Il a fait d'autres choses entre-temps. Mais ce livre-là, il a mis 25 ans à l'écrire. Et c'est ça qui était intéressant. Ce qui est intéressant, c'est lorsque l'écrivain écrit, il se construit en écrivant. Il construit une œuvre, mais il se construit lui-même. Et en lisant ce livre, on voit à quel point l'enfance, le passé, les parents, l'appartement du Quai d'Anjou ont pu construire Frédéric Vitoux et l'aider à faire ce qu'il est à devenir ce qu'il est devenu. Mais il y a cet élément qui est Clarisse, qui ne fait pas partie de la famille au début de l'histoire et qui fait plus que partie de la famille à la fin de l'histoire.
Venons-en, Joseph Vébrec, si vous le voulez bien, à un autre entretien que vous avez mis en scène, si j'ose dire, dans votre numéro 8, c'est sur la langue française, et notamment l'entretien avec Jean Dutour. Alors, c'est d'ailleurs toute une partie du numéro 8 qui est consacrée à ce que vous appelez la vie et la mort de la langue française. Donc, c'est pas uniquement l'entretien avec Jean Dutour, mais celui-ci quand même au cœur du débat. Vous évoquez également le point de vue un peu désenchanté, j'emploie à dessein le mot, puisque c'est un peu le titre de ce livre, de son livre, de Richard Millet. Le point de vue de Jean Dutour semble aussi inquiet malgré tout sur le fond, mais avec un côté ludique qui est quand même sa caractéristique. On ne participe pas impunément aux grosses têtes.
Sa marque de fabrique.
Sa marque de fabrique, absolument. Et puis Jean Dutour, dont je voudrais rappeler qu'il est non seulement membre de l'Académie française, mais également un ardent défenseur de la langue française à travers l'association Défense de la langue française, dont je fais partie. Donc, me plaît à souligner ça. Et Jean Dutour, alors c'est là où je voudrais en venir. Jean Dutour, dans cet entretien, dit une chose qui m'a assez interpellé, étonné. Il fustige les écrivains qui, je cite, cherchent quelque chose d'incompatible avec la littérature, c'est-à-dire d'être un maître à penser. Alors qu'est-ce à dire ? Est-ce que la langue française finalement ne survivra que si elle cesse de penser ? Moi, je me demande quand même si, quand on dit ça, on ne prend pas le risque un peu d'amplifier la tendance qui existe déjà chez certains écrivains, de ne pas se contenter simplement, comme le dit Jean Dutour, de faire banal, mais plus encore, mieux encore peut-être, faire vulgaire, banaliser la vulgarité, transformer la langue, leur langue, en langue d'accueil de tous les borborygmes de la langue parlée, vous évoquiez cela tout à l'heure, de la langue verte et des nouvelles technologies de communication. Je voudrais bien vous entendre là-dessus, sur cette fausse modernité, peut-être.
Il y a beaucoup de choses dans votre question. Il y a Richard Millet qui estime que la littérature est en train de mourir. Richard Millet, qui est un amoureux des mots du français de la littérature. Et pour la petite histoire, Richard Millet est moitié auvergnat, moitié moyen-oriental. Nous nous sommes jamais rencontrés, mais nous avons le même parcours.
Oui.
Non, concernant la défense de la langue française, je pense que nous avons la chance d'avoir une langue très riche, parfois difficile, parfois compliquée à manier lorsque l'on écrit. Qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on met des mots les uns à côté des autres, on a fait une phrase et qu'il suffit d'avoir suffisamment de phrases pour faire un livre. Ça, c'est le problème d'Internet et des blogs qui donnent l'illusion à chacun qu'il est écrivain. Le problème des médias à côté qui interrogent n'importe qui sur n'importe quoi et qui donnent la sensation à n'importe qui qu'il a quelque chose à dire sur n'importe quoi. Moi, je pense que la langue française est un outil, c'est un vecteur, c'est un véhicule. Et c'est un formidable moyen de communication et un moyen de cohésion sociale. À partir du moment où des individus, quels qu'ils soient, ne respectent plus les codes établis depuis des années et des années, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire évoluer la langue. Je dis qu'il ne faut pas fabriquer une langue parallèle. Boris Vian et le Verlan, c'était pas une langue parallèle, c'était un jeu, à un moment donné. Mais ces nouvelles technologies qui développent le SMS, le texto, moi je vois, j'ai deux adolescents, lorsqu'ils m'envoient un mail, je dois décrypter. Tout cela est très inquiétant. Vous avez une académicienne, Jacqueline de Romilly, qui dans un entretien au journal Le Point il y a quelques années, expliquait que grâce à la langue, grâce au respect de la langue, on pourrait faire énormément de choses dans les banlieues et on pourrait faire énormément de choses en termes de cohésion, de compréhension les uns avec les autres, puisqu'on utiliserait le même vecteur. Si on utilise deux vecteurs différents, on ne peut plus s'entendre. Pour revenir à Jean Dutour est un académicien extraordinaire, qui a un humour extraordinaire. On peut lui poser n'importe quelle question. Il a une culture et une érudition infinies, et il démontre que l'on peut être sérieux tout en étant ludique. En participant aux grosses têtes, il a d'ailleurs créé avec Bouvard les grosses têtes, il montre que l'on peut faire œuvre littéraire et faire rire ses contemporains. Juste pour terminer, nous parlions de la langue française. Si on prend un écrivain comme Frédéric Dard, San Antonio a fait évoluer la langue. On croit que c'est facile, mais il y a un vrai travail d'orfèvre derrière. Il aurait peut-être mérité d'être à l'Académie française.
Tiens. Bien, eh bien, écoutez, puisque vous évoquez Frédéric Dard, San Antonio, ça me donne, justement, ça me fournit une transition parfaite pour ma prochaine question, ma dernière question, par laquelle nous allons terminer cet entretien. Je voulais évoquer ce que vous dites dans l'éditorial du numéro 11 de La Presse littéraire. Encore une fois, l'autre revue dont vous vous occupez, que vous dirigez. Dans cet éditorial, vous définissez le rôle de l'écrivain comme consistant à se glisser dans la peau d'un autre. Et vous vous déclarez particulièrement impressionné par les auteurs capables de se glisser dans la peau d'écrivains disparus ou vivants. Ce que vous venez de faire avec San Antonio, enfin Frédéric Dard. Alors moi, je voulais savoir d'abord que vous parliez un petit peu de cette passion que vous avez pour ces écrivains qui se glissent dans la peau des autres. Et puis, savoir si cette phrase, finalement, n'est pas un peu révélatrice de votre propre démarche dans la revue La Presse littéraire. Parce qu'après tout, La Presse littéraire, le numéro 12 est consacré à la peau, si j'ose dire, à la peau de Stendhal. Le précédent, à la peau de Camus. Vous avez un numéro sur Céline. Bref, c'est un peu une revue qui se met aussi dans la peau d'anciens écrivains. Peut-être, dites-nous simplement quelques mots là-dessus, et puis aussi, dites-nous aussi brièvement, parce qu'il faut quand même également saisir l'occasion, dites-nous quels seront les prochains numéros du magazine des livres, quels sont vos projets. Quel bel photoportrait de Louis Monnier vous allez nous proposer, parce que Louis Monnier est présent dans le magazine des livres, il est familier de l'Académie. Et puis, quels grands auteurs du passé vous évoquerez dans La Presse littéraire, dans quel pot allez-vous nous mettre?
Alors, d'abord, sur le rôle de l'écrivain, qui est de se mettre dans la peau des autres, lorsque vous écrivez une fiction, vous inventez des personnages. À un moment donné, vous rentrez dans la peau de chacun de vos personnages, mais cela n'a qu'un temps. Arrive un moment où les personnages vous échappent, parce qu'ils ont une logique propre. Et si vous voulez que votre livre fonctionne, il faut accepter que les personnages vous échappent.
Bien d'accord.
Mais il y a des moments où on se glisse tellement dans la peau des autres que cela devient schizophrénique. Et qu'on en arrive même à appeler ses proches du prénom d'un personnage avec lequel on a maille à partir dans notre écriture. On s'engueule avec ces personnages aussi de temps en temps. Ça c'est un point. L'autre point, c'est je suis très très admiratif de ces écrivains qui sont capables d'écrire des pastiches de qualité. Jacques Laurent était un spécialiste en la matière. Mais Proust a écrit des pastiches célèbres. Je trouve cela assez extraordinaire, peut-être parce que je me sens incapable de le faire, mais arriver à recréer l'atmosphère, l'ambiance, faire comme du Balzac, comme du Proust, comme du Sartre, avec humour ou sans humour, sérieusement ou par dérision, Je trouve ça assez époustouflant. J'ai également un passé, je ne m'en cache pas, je fais partie des écrivains qui le revendiquent, un passé de nègre où parfois on se met à la place d'un écrivain pour l'aider à finir un livre, un chapitre ou une partie, et pouvoir tout simplement payer son loyer parfois parce qu'il faut bien le faire. Maintenant, les numéros à venir, je peux vous dire que ça s'est décidé ce matin. J'ai eu le rendez-vous ce matin. Si tout va bien, le prochain magazine des livres aura Philippe Solers à la une. Donc avec une photo de Louis Monnier. Et pourquoi Philippe Solers? Parce que de toutes parts, j'entends, je lis des critiques sur l'écrivain et l'individu, parce que certains de ses livres m'enthousiasment et d'autres me laisse plus dubitatif, donc ça va être l'occasion ou jamais de jouer le jeu et de lui poser les questions.
Et de maintenir la distance.
Et peut-être de maintenir la distance. Quant à la presse littéraire, le prochain numéro sera consacré entre autres à Flaubert. Mais il y aura deux très belles interviews à l'intérieur d'écrivains vivants. François Taillandier, une très longue interview réalisée par trois jeunes écrivains, et un entretien avec Guy Dupré, le délicieux Guy Dupré, un entretien que je mène actuellement en plusieurs fois. Cet écrivain, je le rappelle, qui a écrit un livre que moi je trouve capital et extraordinaire, qui est « Les fiancées sont froides ».
Eh bien, nous voici donc à la fin de cet entretien. Joseph Vébray, merci beaucoup. Et je voudrais, pour terminer cet entretien, souhaiter longue vie au magazine des livres et à la presse littéraire.
Merci beaucoup.